Chapitre 3. À mon réveil, Prométhée était parti. On avait essuyé le sang doré sur le sol, comblé le trou de ses menottes dans le mur. J'appris la nouvelle par une cousine naïade. On l'avait emmené sur un haut pic dentelé du Caucase, où il avait été enchaîné. Un aigle avait reçu l'ordre de venir quotidiennement lui arracher le foie pour le manger, encore fumant. « Une punition épouvantable, » dit-elle en se délectant de chaque détail. Le bec sanglant, l'organe déchiqueté qui se reconstitue pendant la nuit pour mieux être englouti à nouveau le lendemain. « Tu imagines un peu ?» Je fermai les yeux. « J'aurais dû lui apporter un javelot, me dis-je, quelque chose qui lui aurait permis de se défendre. » Sauf que c'était stupide. Il ne voulait pas d'armes. Il s'était rendu tout seul. Les conversations au sujet de la punition de Prométhée durèrent à peine une lune. Une dryade poignarda l'une des grâces avec une épingle à cheveux. Mon oncle Boré et l'Olympien Apollon tombèrent amoureux du même jeune mortel. J'attendis que mes oncles marquent une pause dans leur ragot. « A-t-on des nouvelles de Prométhée ?» Ils froncèrent les sourcils comme si je leur avais offert une assiette remplie d'aliments infâmes. « Quelles nouvelles pourrait-on avoir ?» Ma paume me faisait souffrir à l'endroit où la lame l'avait entaillée, bien qu'il n'y ait naturellement pas de marque. « Père, manquis-je, Zeus laissera-t-il un jour partir Prométhée ?» Mon père plissa les yeux en examinant son jeu de dames.
« Il faudrait qu'on lui donne mieux en échange. »
« Quoi, par exemple ?» Mon père ne répondit pas. La fille de quelqu'un fut changée en oiseau. Boré et Apollon se querellèrent au sujet du jeune homme qu'ils aimaient, et celui-ci mourut. Boré eut un sourire rusé depuis sa banquette. Le souffle de sa voix fit vaciller les torches.
« Vous pensiez que j'allais le laisser à Apollon ? Il ne méritait pas une fleur pareille. J'ai soufflé un disque en direction de la tête du garçon pour donner une leçon à ce cuistre d'Olympien. »
Les rires de mes oncles, mélange de cris aigus de dauphins, d'aboiements de phoques et de vagues giflant les rochers, résonnèrent chaotiquement. Un groupe de Néréides qui rentrait dans leurs appartements de sel passa, aussi blanche que le ventre d'une anguille. Persès me jeta une amande à la figure.
« Qu'est-ce que tu as ces jours-ci »«
Peut-être qu'elle est amoureuse ?»
hasarda Pasiphae.
« Ah !» se moqua Persès. « Père n'arrive même pas à s'en débarrasser gratuitement. Et crois-moi, il a essayé. »
Ma mère nous jeta un coup d'œil par-dessus son épaule délicate. « Au moins, nous ne sommes pas obligés d'entendre sa voix. »
« Je peux la faire parler, tiens !»
Persès saisit un peu de chair de mon bras entre ses doigts et pinça.
« Tu as abusé des banquets ?»
dit ma sœur d'un ton taquin. Il s'empourpra.
« C'est juste une bête curieuse. Elle cache quelque chose. »
Il m'attrapa par le poignet.
« Qu'est-ce que tu transportes partout avec toi dans ta main ? Elle tient quelque chose. Écarte ses doigts !»
Pasiphae les ouvrit un à un en m'égratignant de ses ongles longs. Ils baissèrent les yeux sur ma paume. Ma sœur cracha.
Rien.
Ma mère mit de nouveau bas, un garçon. Mon père le bénit sans faire de prophétie, si bien que ma mère regarda autour d'elle, cherchant où le laisser. Rendus avisés par l'expérience, mes tantes gardèrent leurs mains derrière leur dos.
« Je vais le prendre !» annonçai-je.
Ma mère adopta un air méprisant, mais elle avait hâte de se pavaner avec son nouveau collier d'ambre.
« Très bien, au moins tu te rendras utile. Vous pourrez communiquer en poussant des cris rauques. »
Aétès l'avait appelé mon père. Aigle. Dans mes bras, sa peau était chaude comme une pierre gorgée de soleil et douce comme un pétale velouté. Jamais il n'y avait eu d'enfant plus gentil. Il sentait le miel et les flammes à peine allumées. Il mangeait ce que je lui donnais avec mes doigts, ne bronchait pas au son de ma voix grêle. Il voulait simplement dormir, blotti contre mon cou, pendant que je lui racontais des histoires. Durant chaque instant passé en sa compagnie, je sentais une bouffée d'émotion monter dans ma gorge, et c'était mon amour pour lui, parfois si immense qu'il m'empêchait de parler. Le plus extraordinaire, c'est qu'il semblait m'aimer en retour. Son premier mot fut « Circé », et ensuite « sœur ». Ma mère aurait pu être jalouse, si seulement elle l'avait remarqué. Persès et Pasiphaé nous surveillaient pour voir si nous allions leur déclarer la guerre. La guerre? Cette idée ne nous intéressait pas. Aétès obtint de mon père l'autorisation de sortir du palais et nous dénicha une grève déserte. La plage était petite et délavée et ses arbres de simples broussailles, mais pour moi, c'était une magnifique étendue sauvage et luxuriante. En un clin d'œil, Aétès grandit, me dépassant bientôt d'une tête, et pourtant nous marchions toujours bras dessus, bras dessous. Ma sœur persifla que nous ressemblions à des amants, et demanda si nous serions ce type de dieu qui s'accouple entre frères et sœurs. Je rétorquai que, si elle y avait pensé, elle devait l'avoir fait la première. Même si l'insulte était maladroite, Aétès rit, ce qui me donna l'impression d'être aussi vive qu'Athéna, la brillante déesse de la sagesse. Plus tard, les gens diraient qu'Aétès était bizarre à cause de moi. Je ne peux pas prouver que c'était faux. Cela dit, dans mes souvenirs, il était déjà bizarre, différent de tous les autres dieux que je connaissais. Même enfant, il paraissait comprendre ce que les autres ne comprenaient pas. Il était capable de nommer les monstres qui vivaient dans les profondeurs marines les plus sombres. Il savait que les herbes que Zeus avait versées dans le gosier de Cronos s'appelaient pharmaca, qu'elles faisaient des merveilles partout dans le monde et que nombre d'entre elles poussaient grâce au sang répandu par les dieux. Quand il faisait ce genre de révélation, je secouais la tête. « Où as-tu entendu dire ces choses ?»« J'écoute. » Moi aussi j'avais écouté, mais je n'étais pas l'héritière préférée de mon père. Aétès était convoquée à siéger à tous les conseils. Mes oncles s'étaient mis à l'inviter dans leurs appartements. J'attendais son retour dans ma chambre pour que nous puissions nous rendre ensemble sur cette grève déserte et nous asseoir sur les rochers, les embruns à nos pieds. Je posais ma joue sur son épaule et il me bombardait de questions auxquelles je n'avais jamais pensé et que je comprenais à peine, comme « Quel effet ta divinité te fait-elle »« Que veux-tu dire ?»« Tiens, je vais t'expliquer l'effet que me fait la mienne, celui d'une colonne d'eau qui coule sans cesse sur elle-même et reste claire jusqu'au rocher au-dessous. Maintenant, à toi !» J'essayais diverses réponses, comme la brise sur un promontoire rocheux, comme une mouette criant depuis son nid. Il secoua la tête. « Non, tu dis juste ces choses à cause de ce que j'ai dit, moi. Quel effet te fait-elle vraiment ? Ferme les yeux et réfléchis. » Je m'exécutai. Si j'avais été mortelle, j'aurais entendu les battements de mon cœur. Toutefois, les dieux ont des veines paresseuses et, à vrai dire, je n'entendis rien du tout. Malgré tout, je détestais le fait de le décevoir. J'appuyai ma main sur ma poitrine et, au bout d'un moment, j'eus l'impression de ressentir quelque chose. « Un coquillage », annonçai-je.
« Ah ah !» Il agita un doigt en l'air. « Un coquillage comme une palourde ou comme une conque ?»«
Une conque. »
« Et qu'y a-t-il dans ce coquillage ? Un escargot ?»«
Rien, » répondis-je. « De l'air. »
« Ce n'est pas la même chose, » corrigea-t-il. Rien est un espace vide, alors que l'air est ce qui remplit tout le reste. C'est la respiration, la vie et le courage, les mots que l'on dit.
Mon frère le philosophe. Savez-vous combien de dieux sont ainsi? Je n'en avais rencontré qu'un seul à part lui. Le ciel bleu formait une voûte au-dessus de nous, mais je fus transportée dans cette vieille salle sombre avec ses fers et son sang. J'ai un secret. « Lui confiai-je. » Aétès leva les sourcils, amusé. Il pensait que je plaisantais. Je n'avais rien connu qu'il ne connaisse pas. C'était avant ta naissance. Aïtès ne me regarda pas pendant que je lui parlais de Prométhée. Son esprit fonctionnait mieux sans distraction, disait-il. Ses yeux étaient rivés sur l'horizon. Ils étaient aussi perçants que ceux de l'aigle dont il tirait son nom et pouvaient s'immiscer dans tous les interstices, comme l'eau pénétrant une coque fuyarde. Lorsque j'eus terminé, il resta longtemps silencieux, puis finit par dire « Prométhée était un dieu de prophétie. Il savait forcément qu'il allait être puni et comment, et ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'il avait à faire. » Je n'y avais pas pensé. Alors même que Prométhée prenait le feu pour l'offrir à l'humanité, il savait qu'il se dirigeait vers cet aigle et ce pic rocheux pour l'éternité. « À peu près », avait-il répondu quand je lui avais demandé si ça irait.
« Qui d'autre est au courant ?»«
Personne. »«
Tu en es sûr ?»
Il parlait d'un ton urgent auquel je n'étais pas habituée.
« Tu n'as rien dit à personne ?»«
Non. À qui d'autre en aurais-je parlé ? Qui m'aurait cru ?»«
C'est vrai. »
Il hocha brièvement la tête.
« Tu ne dois en parler à personne d'autre. Et tu ne dois pas en reparler, même avec moi. Tu as de la chance que père ne se soit rendu compte de rien. »«
Tu crois qu'il serait très en colère ?» Prométhée et son cousin.
Il poussa un grognement dégoûté.
Nous sommes tous cousins, y compris les Olympiens. Tu ferais passer père pour un imbécile qui ne peut pas contrôler sa progéniture. Il te jetterait en pâture au corbeau.
Je sentis mon estomac se contracter d'angoisse, et mon frère s'esclaffa en voyant mon expression.
Exactement, poursuivit-il. Et pourquoi ? Prométhée est puni de toute façon. Laisse-moi te donner un conseil. La prochaine fois que tu défies les dieux, fais-le pour de meilleures raisons. Je détesterais que ma sœur soit réduite en cendres pour rien.